Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast spécialisé dans l'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport, et ce lundi, on se tourne évidemment vers la Ligue des Champions et sur le choc qui attend le Paris Saint-Germain à Dortmund. Le premier sujet, ce sera très simple, Paris doit-il trembler? On posera la question à Elton Mokolo, notre spécialiste Ligue 1. On ira ensuite en Allemagne avec David Lortolari pour parler de cette équipe de Dortmund et aussi de ce mur jaune qui a terrifié tant d'adversaires par le passé. On ira ensuite en Espagne parler du leader surprise qui continue d'éblouir la Liga, Girona. Ana Caro nous parlera de cette équipe qui a finalement une tête de champion. Et on terminera enfin avec la semaine potentiellement noire qui attend Manchester United. Un match face au Bayern Munich mardi, puis le déplacement en Anfield face à Liverpool. Est-ce que la crise guette encore les Red Devils d'Eric Ten Hag? Philippe Auclair nous répondra. Vous connaissez le topo, Tour d'Europe est à retrouver tous les lundis sur vos plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC pour s'abonner à la page et pour recevoir tous les lundis les numéros. Vous aurez en prime le FC Stream Team tous les vendredis. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur eurosport.fr et sur l'application pour retrouver les meilleurs moments. Vous connaissez le menu, alors Tour d'Europe, c'est parti. Et allez, on démarre ce Tour d'Europe par la Ligue 1, Elton Mokolo, qui a passé un week-end avec des buts pour une fois et ça fait plaisir. Comment ça va, Elton?
Bonjour Cyril, on peut le dire. Et bonjour bien évidemment à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. On a eu un week-end riche en buts en Ligue 1. Et c'est quand même à signaler.
C'est le cri du cœur.
Ouais, c'est quand même à signaler entre samedi et surtout dimanche. Ouais. Surtout dimanche, j'insiste là-dessus. Avec en point d'orgue ce match extraordinaire en termes de but, Lorient-Marseille. Oui, ça a été un week-end qui a été prolifique. Donc, on ne va pas s'en plaindre. On est vraiment contents.
Alors, justement, on termine par la fin. L'OM, vainqueur 2-4 sur le terrain de Lorient. Un grand Aubameyang retrouvé. Est-ce que l'OM est lancé, Elton?
Et ben là, au sortir de cet enchaînement de matchs, aussi bien domicile contre Rennes, contre l'Olympique Lyonnais et cette victoire à Lorient, faut pas oublier que l'année dernière, tu avais fait 0-0 à Lorient. Ouais. Là, on peut dire que l'Olympique de Marseille est lancé. L'Olympique de Marseille est aujourd'hui 6e du championnat, donc tu es dans les places européennes. Donc, c'est plutôt de l'optimisme parce qu'on attendait de l'Olympique de Marseille, après la mauvaise série au mois de novembre, qu'à l'occasion du mois de décembre, cette équipe soit capable d'enchaîner. Et là, force est de constater que c'est le cas et que l'Olympique de Marseille, en plus de gagner, met de plus en plus de buts. Là, ouais. Si tu veux, ce n'est pas anodin de ressortir avec 3 matchs à plus de 3 buts. Ouais, c'est donc, sûr. C'est vraiment à signaler. L'Olympique de Marseille est en train de trouver une dynamique qui s'exporte en Europe, bien évidemment, mais aussi en Ligue 1. Et ça, c'est très important.
L'autre Olympique, celui qui a perdu mercredi au Vélodrome, c'est l'Olympique lyonnais qui a gagné face à Toulouse, une victoire 3-0 sur un triplé de Lacazette. Là aussi, la question elle est un petit peu similaire, mais cette victoire 3-0 est à même de redonner de la confiance à cette équipe qui en manquait terriblement. Est-ce que Lyon est lancé dans sa quête de maintien? On voit que devant, ça avance pas très très vite et que finalement, Lyon n'est pas aussi largué qu'on aurait pu le penser il y a quelques journées.
Alors pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, c'était le match de la peur parce qu'il y a aussi Toulouse qui est dans une situation qui est quand même délicate et je doute que l'entraîneur Martinez Novel va continuer vu la dynamique. Mais c'est vrai que c'était une victoire qui était très importante, une victoire avec un score confortable. Et ça, pour le coup, pour l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas souvent arrivé cette saison. Et maintenant, il ne faut pas oublier que vendredi prochain, c'est Monaco. Ça va être une autre paire de manches. Donc, par rapport à l'Olympique Lyonnais, c'est une victoire qui est vraiment très importante. Mais je me garderai d'établir un constat parce que l'Olympique Lyonnais a besoin d'une série positive avant de pouvoir se prononcer. Donc, il faut se contenter de la victoire aujourd'hui. Et Dieu sait que c'est très important pour les hommes de Pierre Sage.
Alors, on va parler maintenant d'Europe, Elton, puisque la semaine qui s'ouvre est ô combien importante pour nos clubs français. On a la possibilité, dans un monde idéal, d'avoir le Paris Saint-Germain qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La possibilité, dans un monde idéal, d'avoir Lens, Rennes, Marseille et Toulouse qualifiés aussi en Ligue Europa et Lille en Ligue Europa Conférence. Est-ce qu'il faut croire au 6 sur 6 ?
Oui, il faut croire au 6 sur 6. C'est un objectif qui est réalisable déjà. Par rapport au RC Lens qui va affronter Séville. Séville, on sait très bien que c'est une équipe qui est actuellement dans une très mauvaise passe au niveau du championnat. Et en Ligue des Champions, on a vu que ça a été très compliqué. Ils ont encore perdu à la maison face au PSV Eindhoven. T'as l'opportunité à domicile d'écrire un nouveau chapitre dans ton histoire européenne, parce que c'est pas tous les jours que tu vas te qualifier en Ligue Europa. Et même s'il y a une déception légitime par rapport au fait d'avoir été éliminé dès la cinquième journée de Ligue des Champions, parce que jusqu'à la J4, tu étais quand même qualifié.
Ouais.
Mais tu restes le RC Lens et c'est très important d'avoir un destin européen. Maintenant, on arrive sur le PSG. Le PSG qui a un objectif qui est très important, c'est se qualifier pour un huitième de finale. Il est vital de se qualifier pour un huitième de finale et tu as aussi l'opportunité d'être premier, ce qui n'est pas rien. Mais aujourd'hui, du côté du PSG, on va davantage regarder la qualification. Ouais. Maintenant, il faudra voir la réalité d'un Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund qui a perdu ce week-end contre Leipzig, dans des circonstances particulières.
On va en parler juste après.
Avec l'expulsion précoce de Musk, qui maintenant est à 5 points de Leipzig, qui est quatrième du championnat. Il faudra voir s'ils vont aller chercher cette première place à domicile ou il y aura un peu de relâchement en se disant « on est déjà qualifié ». Et donc, on n'a pas besoin de faire énormément de travail, mais connaissant la mentalité du Borussia Dortmund et surtout après cette défaite qui est quand même préoccupante au niveau comptable, je pense qu'ils auront à cœur de faire un beau match devant le public.
Alors, le Paris Saint-Germain doit-il avoir peur ? C'est la grande question, Elton. On le sait, Paris à l'extérieur, ces dernières années, c'est très très compliqué en Ligue des Champions. Est-ce que Paris doit y aller en étant convaincu de ses forces et en jouant son football, ou à l'inverse, est-ce que Paris doit se dire « jouons peut-être les transitions, on sait qu'on a des joueurs devant qui peuvent le faire et qui peuvent faire très très mal ». Kylian Mbappé, si tu nous écoutes, quel plan de jeu doit adapter Paris, et surtout, est-ce que Paris doit avoir peur, tout simplement, selon toi ?
Mais Cyril, la peur, elle est là, elle est légitime. À partir du moment où tu es certes deuxième et tu as perdu deux matchs à l'extérieur, maintenant, la peur doit être un moteur positif pour le PSG, en se disant que là, on est sur un match à la vie et à la mort, à savoir si on perd ou si on fait même match nul, on peut être éliminé. Donc, ça doit permettre à certains joueurs de grandir et de justement être force de proposition, force d'initiative sur ce match-là. Et moi, je pense qu'on aura un PSG habituel par rapport à ce que veut Luis Enrique, un PSG qui sera protagoniste, qui voudra aller vers l'avant, qui voudra tenir le ballon et qui voudra marquer des buts. Et je pense que c'est la meilleure attitude à avoir, et ne pas se dire qu'on va arriver dans une rencontre en étant crispé, en étant très sécuritaire dans son approche. Et donc il faut continuer notamment d'être force de proposition, définir le rapport de force pour avoir le plus de chances de gagner, parce qu'aujourd'hui c'est la priorité, aller gagner à Dortmund. Faut pas partir à Dortmund en se disant on va faire un match nul, parce que même le match nul peut être éliminatoire. Donc il est vraiment important pour le PSG d'avoir cette mentalité offensive, d'avoir une mentalité positive pour avoir le meilleur résultat possible, en te disant aussi que même si c'est à la maison, c'est un match aller. Première journée, et Dieu sait qu'il y a eu énormément de choses sur la phase de groupe, t'as battu Dortmund. Donc je pense qu'avec en plus un Kylian Mbappé qui aura à cœur justement de montrer que c'est un joueur de référence sur le plan mondial, t'as quand même des motifs d'espoir pour aller battre le Borussia Dortmund.
Alors, il y a plusieurs scénarios qui se dessinent pour ce match. On rappellera que le PSG ne peut pas être éliminé totalement des compétitions européennes. Au pire du pire, Paris terminera troisième s'il fait match nul à Dortmund et que Newcastle gagne, ou s'il perd à Dortmund et qu'il y a un vainqueur entre l'AC Milan et Newcastle. D'où ma question, Elton. Si Paris est reversé en Ligue Europa, est-ce que c'est une catastrophe ?
Oui, c'est une catastrophe, parce que déjà, ce serait la première fois dans l'histoire du QSI depuis qu'ils sont arrivés en juin 2011. Mais surtout, par rapport à l'image que tu as envoyée, tu as quand même eu un mercato qui a été conséquent, par rapport au fait que tu as Kylian Mbappé qui est entré dans sa dernière année de contrat. Tu as des éléments qui te laissent montrer que ce serait une catastrophe d'aller en Europa League. Alors, oui, ça reste un trophée européen, ça reste un trophée que le PSG n'a pas remporté dans l'absolu. Mais maintenant, encore une fois, on avait dans l'idée que le PSG aurait un destin européen. mais ils sont en Ligue des Champions. Et dès le mois de décembre, être éliminé, si tu veux, redescendre en Ligue Europa quand tu es une équipe Ligue des Champions, quand tu es une équipe supposée être top en Ligue des Champions, c'est pas forcément la meilleure des choses. Et tu peux demander au Barça, tu peux demander à Manchester United, qui n'ont pas remporté cette compétition, même la Juve de Conte. Donc oui, ce serait une catastrophe d'aller en Europa League de manière indiscutable.
On va parler peut-être du choix des joueurs qui attend Luis Enrique ce mercredi, parce qu'on le sait, Ousmane Dembélé sera absent. Et quand on voit son début de saison au Paris Saint-Germain, bah, on se dit que c'est peut-être le joueur le plus important dans l'animation parisienne, en dehors des buts en tout cas. Comment toi, tu remplacerais Ousmane Dembélé? Est-ce que tu remets Kanginli sur le côté comme ce fut le cas face à Nantes ce week-end? Est-ce que tu mets Kolo Muani à cette position-là? Voilà, quelle animation pour Paris à tes yeux?
Et la principale interrogation, on a eu des pistes à l'occasion du match contre Nantes, parce que même si c'était un match qui était particulier, Luis Enrique l'a reconnu, ils étaient quand même focalisés sur
Ouais,
Borussia
bien sûr.
Dortmund. On a quand même eu des choses dans la perspective de Dortmund, parce que dans l'absolu, Dembélé n'a pas démarré. Ce qui te donne une indication, parce que Dembélé aurait très bien pu démarrer,
C'est vrai.
en sachant qu'il ne jouait pas contre Dortmund. Donc je pense que Luis Enrique a commencé à préparer des choses. Et donc par rapport à ça, je suis très curieux à l'idée de voir l'identité de l'ailier droit. Lee Corgan ne m'a pas
Ouais.
convaincu parce qu'il a manqué de percussion, il a manqué de personnalité dans les derniers mètres. Est-ce qu'on va reconduire Lee Corgan? Est-ce qu'on va privilégier Randal Kolo Muani sur un côté, chose qui a déjà été faite par Luis Enrique? Est-ce qu'on va mettre Barcola sur le côté droit? Mais aujourd'hui, pour moi, Siri, je pense que le trio d'attaque, si on peut le considérer comme tel, sera bien évidemment Kylian Mbappé, Barcola, de parce qu'il a montré aussi bien face à Nantes, mais aussi lors de la deuxième période contre Newcastle, et Randal Kolo Muani qui est un profil qui est davantage titularisé en Ligue des Champions quand tu regardes les stats, quand tu regardes aussi son profil, à savoir un joueur d'espace. On sait que le Borussia Dortmund est
Va
une
en
équipe
laisser.
qui peut
Ouais,
te
tout à fait.
concéder des espaces. Donc moi je pense qu'on partira sur une formule où Kylian Mbappé sera le 9. En tout cas, il
OK.
aura la possibilité de davantage se balader dans les zones. Et Randal Kolo Muani et Barcola vont l'accompagner. Pour moi, ce serait ma compo.
Et il faut remettre aussi un certain joueur qui a beaucoup manqué ces dernières semaines, c'est Zaïre-Emery. Il faut qu'il soit absolument titulaire malgré son manque peut-être de rythme.
Alors là, c'est la principale interrogation parce qu'aujourd'hui, moi, je mettrais Zaïre Emery sur le banc parce que, bon, il a été blessé depuis le rassemblement du mois de novembre. Et même là, on voit que sur un match d'enjeu, on sait très bien que la deuxième période peut avoir une importance capitale en fonction du résultat, c'est-à-dire si le Borussia Dortmund va aller te chercher, si le PSG doit aller chercher un résultat. Est-ce que tu mets Zaïre Emery dès le départ? Je dis non. Mais en même temps, et c'est la principale problématique, tu manques d'alternatives au milieu de terrain parce que
Ouais.
Fabien Ruiz s'est blessé. Et la simple blessure de Fabien Ruiz fait que quantitativement et surtout qualitativement, tu es quand même en difficulté du côté du PSG. Je dis difficulté dans la capacité à dessiner, à construire une équipe au milieu de terrain. Donc, est-ce que tu vas remettre Lee Kang-in au milieu de terrain? Mais ça impliquerait de mettre et Vitinha et Lee Kang-in, chose que Luis Enrique n'a pas souvent faite. C'est quand même une des interrogations qui sont très, très importantes pour l'avenir et surtout le présent du PSG.
Et ben voilà pour ce gros point autour du Paris Saint-Germain avant le choc mercredi face à Dortmund. Dortmund, ça tombe bien, on va en parler juste maintenant, puisqu'on s'envole pour l'Allemagne pour retrouver David Lortolari. Et allez, on arrive en Allemagne, on retrouve David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga. Guten Tag, David, comment ça va?
Guten Morgen, Guten Tag, Cyril, ça va bien? On a eu énormément de buts, comme toujours, comme de tradition ce week-end, et quelques surprises aussi, n'est-ce pas?
Ouais, tout à fait. Alors justement, il y a eu beaucoup de buts, mais c'est pas ceux. Ils ont été marqués par une équipe différente de celle qu'on pensait. C'est-à-dire que bah, le Bayern, on va commencer par ça, a été corrigé ce week-end. Une défaite 5-1 face à Fribourg, face à Francfort, pardon. Question très simple, il s'est passé quoi?
On se demande si c'est le 9 décembre qui devient le jour noir de Manuel Neuer, puisqu'il s'était blessé il y a un an au
Ah oui.
ski, à ce moment-là aussi. Et donc, on a repensé à ça comme un symbole. Accident probablement pour le Bayern. Sur un match comme ça, il vaut mieux en prendre 5 une fois qu'une fois 5, comme on dit
Ouais.
souvent. Mais on discute beaucoup depuis hier sur les plateaux télé et dans les journaux sur le manque d'engagement des joueurs du Bayern, des joueurs comme Gnabry, qui le pauvre n'a pu jouer que 3-4 minutes, est très infortuné, symbolique de cette défaite, mais il y en a d'autres aussi dont l'engagement dans un match comme ça pose question, et notamment la défense. Et Thomas Tuchel s'est gratté un peu la tête, évidemment, en conférence de presse, et le Bayern, certes, s'est baladé, entre guillemets, dans sa poule de Ligue des Champions jusqu'ici, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes, mais en championnat, il y a quelques signes un peu inquiétants, notamment ce manque d'engagement défensif. Et évidemment, ça va poser question pour les matchs qui restent avant la trêve. Thomas Tuchel commence à être discuté. Il n'est pas encore remis en question. Mais bien sûr, tout va très vite dans un club comme le Bayern.
Ils vont envoyer l'armada lourde face à United ce mardi, ou il faut s'attendre à une équipe un peu remaniée?
Non, alors Tuchel aime bien essayer de profiter un peu de toutes ses forces, mais là il va y avoir forcément les meilleurs à leur poste. Moussiala est revenu, il est entré en fin de match, c'était évidemment une satisfaction pour lui, et on peut imaginer que le jeune Moussiala, par exemple, soit sollicité contre Manchester United. Le Bayern doit se rassurer tout de suite, parce que vous avez vu les mines en tribune des présidents et de Lyonnais, on n'était pas du tout content, donc il faut tout de suite essayer de remettre les choses en place.
Alors, mon cher David, on vient te voir pour parler d'un club dont on veut parler depuis très longtemps, pour ne pas vous faire de secret, c'est pour parler du Borussia Dortmund. L'actualité nous sert bien, puisque évidemment, le Paris Saint-Germain se déplace ce mercredi à Dortmund pour valider sa qualification ou non en huitième de finale de Ligue des Champions. On a une première question qui est un petit peu directe, mais en France, évidemment, on imagine le scénario du pire. Est-ce que Dortmund est si effrayant, David ?
Non, Dortmund n'est pas si effrayant. Il est évident qu'à domicile, porté par 75 000, 80 000 personnes, Dortmund a un joueur de plus, entre guillemets. Non sur le terrain, mais très proche de lui. Et ça, bien sûr, ça pèse. On le sait dans les statistiques en championnat. À domicile, Dortmund est plus fort. C'est une évidence. Et ça, c'est une arme, bien sûr, pour un match comme ça. Cela étant dit, et cela étant un fait accepté depuis toujours, Dortmund n'est pas si effrayant. Dortmund a des dissensions dans le fonctionnement du club dernièrement. L'entraîneur Edin Terzic ne peut pas faire l'unanimité. Il est reconnu pour sa fibre humaine, il est reconnu pour sa fibre managériale, mais on lui reconnaît aussi, même si ce n'est pas dit toujours face caméra, on lui reconnaît aussi des lacunes, des faiblesses sur le plan de la tactique, sur le plan du choix des joueurs. Et Edin Terzic est aujourd'hui discuté. Alors, en championnat, Dortmund a souvent cette saison gagné des matchs par un but d'écart. C'était un peu trompe-l'œil parce qu'on se disait « Ok, ils suivent les meilleurs », mais le jeu derrière ne suivait pas forcément. Et il y a, je disais, une dissension à l'intérieur du club, c'est que il y a des gens qui ne s'entendent pas très bien à des postes clés. Vous avez un président, un patron, M. Watzke, qui est très proche de l'entraîneur, M. Terzic. Ça explique la confiance qui est laissée à Terzic. Mais le directeur sportif, ancien joueur du club, Cyril Sébastien Kehl, s'entend assez peu, les relations sont assez froides avec son entraîneur. Il y a aussi une relation de méfiance avec son patron. Il y a Sébastien Kehl qui a voulu renforcer son pouvoir, qui a fait venir des assistants cet été, et l'un de ses assistants, M. Stanic, est déjà reparti au bout de 3 mois parce que il a dit du mal de l'entraîneur dans le dos de celui-ci. Voilà, on commence à apprendre des choses comme ça et on comprend un peu mieux qu'à Dortmund, il n'y ait pas tellement de stabilité en interne. Et puis sur le plan sportif, Cyril, on a quand même un club qui joue contre nature, qui joue très défensif. En Allemagne, on utilise le terme de bétonné. Contre Stuttgart, 2 fois, on a eu une attitude défensive. 2 fois, on a perdu. Ce week-end, on a aussi une attitude défensive contre Leipzig, dont on connaît l'enthousiasme. On perd encore à l'arrivée. Alors oui, il y a des circonstances atténuantes. Oui, il y a Mats Hummels expulsé au bout d'un quart d'heure. Oui, il y a des joueurs blessés. Bien sûr, en ce moment, par exemple, c'est Moukoko et Sébastien Haller. On peut citer ces deux attaquants, entre autres. Oui, il y a des circonstances comme ça, mais Dortmund n'est pas effrayant. Dortmund n'est pas au mieux. Et pour résumer l'affaire, le tableau, si le Paris Saint-Germain ne parvenait pas à prendre au moins un point contre cette équipe, ce serait forcément, du point de vue parisien, une déception et un échec.
Ah ouais, carrément, ok. Ouais, donc on se disait que effectivement la dynamique de toute façon pour Dortmund ne plaide pas en sa faveur. Il n'y a que 4 victoires sur les 9 derniers matchs. Mais parmi ces 4 victoires, il y en a 2 en Ligue des Champions qui ont permis aux jaunes de se qualifier d'ores et déjà pour les 8e de finale. J'aimerais bien que tu nous parles d'une chose qui va être au cœur de l'avant-match et du match en tant que tel, c'est ce fameux mur jaune. Je vais te lire les déclats de Mats Hummels qui expliquait que dans notre antre, avec le mur jaune, l'ambiance sera dantesque, ça va être excitant. La pression sera surtout sur notre adversaire. Est-ce que toi, qui as déjà été à Dortmund plusieurs fois, tu peux nous dire quelle est la réalité de ce mur jaune? Qu'est-ce que ça pèse dans un match?
Alors, ce mur jaune, c'est la grande fierté des supporters, des sympathisants de Dortmund. On est incapable de vous donner un chiffre précis sur le nombre de spectateurs qu'il y a dans cette tribune latérale, qui est la plus grande, en fait, du stade. Quand on est en configuration debout, quand on est en configuration championnat, où on a 81 000 spectateurs dans ce stade, quand il est plein, bien sûr, et il l'est toujours, ou quasiment, on a à peu près 25 000 personnes dans cette immense tribune très verticale derrière l'un des deux buts, la Südtribüne, donc le mur jaune, Gelbe Wand en allemand, et c'est très impressionnant. Ça l'est forcément un peu moins en configuration UEFA, en configuration championnat, ouais. Parce que on est un peu moins serré, on est un peu moins debout, forcément, ce sont les règles UEFA, et c'est un petit peu moins impressionnant sur le plan visuel, mais ça reste massif, ça reste une espèce d'énorme essaim d'abeilles, parce que c'est jaune et noir, un petit peu comme ça, qui bourdonne, qui fait énormément de bruit, et c'est absolument assourdissant. Il y a très peu de stades en Allemagne, je pense à Francfort, je pense à Cologne, qui peuvent faire autant de bruit. Et cette Gelbe Tribune, cette Südtribüne, évidemment, c'est l'arme numéro un. Alors, je disais en préambule que c'est un homme de plus quasiment pour Dortmund, ouais, dans un match. Et Mats Hummels n'a pas tort. Ça fait partie du folklore, c'est vrai, dans les déclarations d'avant-match. Mais c'est une réalité. Quand vous avez ce mur qui vous intimide, qui vous pousse quand on est Dortmund, qui essaye de vous déstabiliser quand on est l'adversaire, peut-être que c'est là le stade en Allemagne, voire, allez, on va mettre de côté peut-être la Grèce ou la Turquie, en Europe, où c'est le plus impressionnant. Effectivement, même quand on est en tribune de presse, au milieu du terrain, au-dessus du rond central, on a cette espèce de masse sur le côté qui s'impose,
tremble,
à nous.
Ça tremble aussi un petit peu dans les tribunes, même un peu dans tout le stade, quoi.
Absolument, absolument. Ouais. Beben, en allemand, c'est-à-dire un petit peu, voilà, une sorte de tremblement de terre, on pourrait presque dire. C'est très impressionnant aussi quand on est dans les vestiaires. C'est quelque chose de qui vous happe, qui vous attrape, qu'on soit sur le terrain, qu'on soit en tribune, qu'on soit dans les coursives du stade. Oui, c'est un argument, bien sûr, mais on en revient quand même à l'essentiel. Il va falloir que Dortmund soit plus fort qu'il n'a été à l'aller contre Paris, où je l'avais trouvé très timide. Ouais. Et ça rattrape ce qu'on vient de dire, Cyril, cette façon de jouer un peu contre nature qui fait que Terzic est critiqué actuellement, c'est-à-dire que Dortmund ne déploie pas un jeu très enthousiaste. Son public, lui, ça c'est clair, pour un match comme ça, sera enthousiaste parce que c'est en Ligue des Champions en ce moment que Dortmund réussit le mieux, c'est vrai.
Est-ce que peut-être tu peux nous parler un petit peu de la défense de Dortmund, parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain dispose d'un certain Kylian Mbappé, dont l'arme principale c'est la prise de profondeur et la vitesse. C'est pas forcément le fort des défenseurs de Dortmund, Mats Hummels fait son âge aussi un petit peu. Est-ce qu'il y a un plan anti-Mbappé qui est en train d'être construit, et qu'est-ce qu'il faut penser de cette défense des Borussen?
Je pense que Terzic réfléchit beaucoup là en même temps que nous parlons, okay, parce qu'il a des blessés. Il a le battant norvégien Ruerson qui est blessé sur le côté. Il a Wolf qui n'était pas là ce week-end, qui est très incertain aussi. Je ne suis pas sûr qu'il puisse disputer ce match-là. Alors Wolf n'est pas un immense défenseur latéral, mais ça fait un absent de plus. Ouais. La défense centrale, on hésite autour de Mats Hummels qui est incontesté parce, ouais, qu'il reste quand même très fort dans les gestes défensifs et dans la relance, donc ça reste une valeur sûre, mais autour de lui, c'est forcément l'hésitation. Schlotterbeck, avec son pied gauche, est intéressant, mais il fait aussi des bêtises en, oui, défense. Süle est entré pour suppléer Mats Hummels ce week-end. D'ailleurs, on s'est demandé pourquoi Terzic faisait sortir le jeune anglais Bino Gittens, parce que c'était lui qui apportait un peu de fougue en attaque, mais ça, c'est un autre problème. Et Süle n'est pas incontesté non plus. Donc il y a le pôle Hummels, il y a les joueurs autour qui sont un peu incertains, et quand même, il faut compléter le tableau dans le bon sens pour Dortmund, Cyril, c'est que Greg Kobel, lui, est le meilleur joueur de l'équipe, le gardien suisse, tout à fait excellent. Il les sauve 4, 5, 6 fois par rencontre. Donc Dortmund peut toujours s'appuyer quand même sur la confiance d'un Kobel pour réussir l'exploit de remporter un match de Ligue des Champions. On ne peut pas expliquer la défense sans expliquer les exploits de Kobel semaine après semaine. Donc ça fait un peu un tableau avec des trous, des soucis, un espoir pour le Paris Saint-Germain, mais aussi des valeurs sûres Hummels dans ses points forts et le gardien Greg Kobel, évidemment, excellent depuis le début de saison.
Dernier tout petit mot, parce qu'on en a parlé. Dortmund attend le Paris Saint-Germain et tu nous disais que Paris avait quand même été largement favori de ce match-là et que ce serait quand même une déception pour eux de ne pas gagner face à cette équipe de Dortmund. Est-ce qu'en Allemagne, on a une envie, notamment médiatique, de voir le PSG se prendre les pieds dans le tapis et de voir Paris reverser en Ligue Europa, puisque c'est une possibilité aujourd'hui?
Ça a été très vrai sur les dernières saisons,
okay.
Avec d'un côté un respect pour cette surface financière, pour ce Paris Saint-Germain qui aligne des super joueurs. Ça a été très vrai les dernières saisons. Là, c'est un peu moins vrai parce qu'on se concentre beaucoup sur le championnat avec 4-5 équipes qui peuvent lutter pour le titre. Hein, on les connaît, Leverkusen, Stuttgart, Leipzig et Bayern Dortmund. Et donc, on se concentre beaucoup sur le championnat parce qu'on est ravis de cette concurrence. Et en Ligue des Champions, on est extrêmement heureux, extrêmement soulagé que Dortmund soit déjà qualifié. Et on se concentre finalement médiatiquement assez peu sur le Paris Saint-Germain. Ça va peut-être donner aussi à Dortmund un peu moins de stress pour un match comme ça, parce que l'enjeu quelque part est limité. Dortmund a atteint son objectif, il est qualifié pour la suite de cette compétition, et donc peut-être va-t-il pouvoir jouer un petit peu avec moins de stress qu'à l'aller où il avait été encore une fois très timide. Non, médiatiquement on se concentre vraiment aujourd'hui sur les différents clubs allemands qui se tirent la bourre en championnat.
Ça marche. Bah, merci beaucoup, David. Nous, on va quitter la Ruhr pour retrouver la Catalogne et son soleil, Girona. Et allez, on arrive donc en Espagne, et plus précisément en Catalogne, puisque c'est là qu'il fallait être dimanche soir pour suivre la sensation de cette Liga, on va le dire. On accueille Anna Caro, notre spécialiste Liga, puisque Girona est à nouveau leader de la Liga, et tout ça en s'offrant une victoire de prestige 2-4 sur le terrain du FC Barcelone. Est-ce qu'il fallait s'y attendre, Anna?
Alors, dans ces largesses-là, sûrement pas. C'est très compliqué d'aller gagner à Barcelone. Hein. L'Atlético en a fait les frais. Cette équipe de Girona, on en avait déjà parlé. On savait qu'elle était terriblement efficace et qu'elle avait des transitions, comme on a pu voir hier, qui font que l'équipe se procure une grosse occasion ou un but à chaque contre. Mais hier, c'était une leçon de football de la part de Girona au Barça. Et ce que retient beaucoup la presse catalane, c'est que finalement, Girona a joué comme devrait jouer le Barça. C'est beaucoup d'efficacité, beaucoup de gestes techniques, de bonnes ressorties de balles, de percussions.
Beaucoup d'occasions, tout simplement.
Et énormément d'occasions. Et même si le Barça peut se targuer d'avoir eu la possession sur la rencontre, on voit bien que la possession ne sert pas à grand-chose dans ces conditions-là, puisque même le milieu de terrain du Barça, qui était la vraie satisfaction côté Barça après la victoire contre l'Atlético le week-end dernier, et bah même ce milieu de terrain-là s'est retrouvé un peu pris, bien pressé par Alex Garcia et Ivan Martín au milieu, qui sont deux joueurs qu'on ne connaît pas spécialement en France et qui sont beaucoup moins cotés que Frankie de Jong, Gundogan et Pedri.
Alors, on regarde le classement de la Liga ce lundi matin. Girona a 41 points, le Real en a 39. L'Atlético est à 34, donc il y a déjà un énorme gap entre les deux premiers et ceux qui suivent. La presse catalane titrait ce matin « sin limites », donc sans limite. Est-ce que c'est si farfelu et si fou de dire que ce Girona a une gueule de champion ?
Alors oui, c'est pas farfelu, et oui, le Girona peut totalement être champion, parce qu'on a vu cette saison un Barça qui n'est pas du tout sûr de ses forces, qui a pris énormément de buts, qui a toujours les mêmes lacunes sur les transitions défensives, et hier, ça a été particulièrement visible. Et d'un côté, on a cette équipe de Girona qui est très fraîche, qui ne joue pas l'Europe, donc qui a quand même davantage de temps de récupération par rapport au Real Madrid ou au Barça, et qui a surtout un effectif qui semble presque pléthorique, alors qu'on a des moyens très limités. Mais dès qu'il y a un joueur qui est absent, et hier, il faut rappeler que Girona a joué sans Yonrel Herrera, qui est un de ses milieux phares, hein, un indéboulonnable du 11, et pourtant, ils ont réussi à gagner. Si on prend le nombre de points qu'a aujourd'hui Girona après 16 journées, à savoir 41, déjà, ils sont maintenus en Liga, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est leur objectif premier. Et deuxièmement, tous les clubs qui ont eu 41 points à ce moment-là de la saison lors des 10 dernières années, ont fini champions. Ouais. Donc, ce sont des chiffres voilà, qui ne trompent pas. Ils sont sur cette victoire à l'extérieur. C'est pareil, c'est une série que n'avaient jamais réussi d'autres clubs que le Barça et le Real Madrid. Donc, il y a énormément de stats comme ça qui font dire que bah, peut-être que le Girona peut aller au bout parce que c'était la sensation de début de saison.
Ouais.
On en avait déjà parlé en septembre, en octobre, ça continuait. Et puis finalement, là, on arrive, on est début décembre, mi-décembre, et ils sont toujours premiers. Ils profitent à chaque fois du mauvais pas du Real Madrid, qui est le dauphin habituel en Liga quand il n'est pas premier. Là, c'est le Real qui a fait match nul contre le Betis ce week-end. Hop! Le Girona ouais. ne manque pas l'occasion, gagne 4-2 contre le Barça chez lui et repasse devant. Alors, à moins qu'il y ait aussi des très gros forfaits dans
des,
l'équipe.
Des blessures longue durée, potentiellement.
Ils ont quand même réussi à jouer, par exemple, Santi Gankov, qui était une des pépites, on va dire, de ce début de saison. Ils ont réussi à jouer sans lui fin octobre, début novembre. Il faudrait juste pas que ces blessures s'accumulent, mais on sent que Mitchell est assez confiant, qu'il a toujours un temps d'avance, une solution d'avance. Il est très, très flexible aussi sur ses systèmes tactiques.
Okay.
Et si jamais il voit que, par exemple, le 4-3-3 ne fonctionne pas, mais qu'il a des joueurs qui peuvent apporter en 3-4-3, etc., il n'hésitera pas à changer de système en cours de match, à faire basculer des joueurs aussi, parce qu'on a vu hier Valéry rentrer en tant que piston droit à la place de Yann Couto, alors que de base, il est plutôt ailier, voire milieu.
Ouais.
Donc, c'est un effectif qui est très, très polyvalent et que c'est parfaitement exploité. Mitchell, c'est difficile aujourd'hui de voir où pourrait s'arrêter Girona. Leur seule défaite cette saison, c'est contre le Real Madrid.
Ouais.
Mais il y a un match retour et à voir comment sera Girona d'ici là, mais comment seront aussi l'Atleti, le Barça et le Real Madrid, qui n'ont pas forcément apporté plus d'assurance que ce qu'a apporté Girona.
Il y a une question qui me turlupine, puisque tu disais que la presse catalane ce matin disait que Girona avait joué comme devrait jouer le FC Barcelone. Est-ce qu'il y a un enthousiasme général sur cette équipe, autour de cette équipe de Girona en Espagne, ou est-ce qu'à l'inverse, on regarde aussi un petit peu les coulisses, la façon dont ça a été monté, qu'il appartienne au City Group, etc. Est-ce que c'est des critiques qui apparaissent, ou on est à 100% enthousiaste derrière bah juste la production offensive de cette équipe et le jeu qui est développé et les résultats qu'ils ont cette saison?
Non, il y a énormément d'enthousiasme. Si on prend toute la presse espagnole ce matin, tout le monde titrait sur Girona, sauf la presse catalane pro-Barça qui titrait plutôt sur la déception. Mais sinon, il y a énormément d'enthousiasme autour de cette équipe. Mitchell lui-même le disait en conférence de presse hier soir, lui, il est très content de voir que son équipe non seulement satisfait évidemment les supporters de Girona, mais qu'il y a d'autres supporters, d'autres clubs maintenant qui se mettent à suivre Girona, qui viennent à Montilivi, parce que maintenant le stade qui fait quasiment 14 000 places à Girona est presque plein à tous les matchs, y compris contre Almeria, Alavés, des clubs qui sont relégables. Donc il y a un vrai enthousiasme national et il faut se rendre compte que Girona, c'est pas vraiment le club du City Group. C'est-à-dire que, alors oui, il y a 3 joueurs au total dans l'effectif qui ont un lien avec le City Group, dont Yandrel Herrera, qui était...
Dont Savio aussi, je crois.
Savio, voilà, qui est à 3 et qui est prêté à Girona. Mais par exemple, Yandrel Herrera, hier, n'était pas là.
Ouais.
Et le milieu de terrain, c'était Ivan Martín et Aleix García. Aleix García, c'est un pur produit catalan. Il est né en Catalogne. Donc, il y a beaucoup moins cette patte
quand même,
City Group qu'on peut trouver, par exemple, à 3.
Ouais.
C'est un club qui reste toujours très identitaire catalan, parce que Girona, c'est aussi une ville qui est réputée pour son indépendantisme catalan. C'est Carles Puigdemont qui était un indépendantiste, il était maire de la ville là-bas. Donc cette identité, elle est très 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 importante pour les supporters, pour la direction du club, parce qu'on rappelle que c'est Pere Guardiola, le frère de Pep, qui est à la tête de tout ça. Et il a à cœur d'avoir des gens du club. Et Mitchell, c'est un entraîneur espagnol, c'est un entraîneur qui a fait des bonnes performances au Rayo Vallecano, à Huesca, et qui aujourd'hui arrivé en Catalogne, continue avec ce jeu justement très catalan dans l'identité de jeu, mais lui aussi a intériorisé ça, fait des conférences de presse en catalan et a à cœur de faire jouer même des jeunes du centre de formation, parce que Girona est aussi un très bon centre de formation.
Donc l'objectif à terme, si je t'écoute bien, c'est plutôt de s'implanter encore un peu plus en Espagne, d'être une équipe régulièrement européenne, de réussir à devenir un peu un centre de formation et être révélateur de talent, plus que de devenir un géant européen financé par le Citigroup.
Alors, c'est difficile de savoir quel est l'objectif exactement parce que tous les dirigeants et même Mitchell répètent que leur objectif, c'était le maintien.
Ouais.
Bon, maintenant, ils l'ont bien atteint.
Je pense que là, ils peuvent viser d'autres objectifs, effectivement.
Les supporters, eux, ils rêvent pas forcément de titre. Aujourd'hui, ils se disent déjà, si on joue la Coupe d'Europe, c'est bien. C'est un club qui est arrivé en Liga la saison passée.
Ouais.
Donc, ils ont... c'est un peu comme quand Lens est revenu en Ligue 1 et qui a fait ses très bonnes performances. C'est un club qui est structuré, qui a un bon centre de formation derrière, une bonne organisation sportive, etc., mais qui n'est pas forcément taillé pour justement être un grand d'Europe.
Ouais.
Et je ne pense pas que dans la mesure où le Citigroup a déjà Manchester City, il vise à ce que Girona soit un autre grand, parce que déjà c'est compliqué au niveau de la C1 pour pouvoir les faire jouer ensemble potentiellement. Donc, d'ailleurs, si Girona finit champion, on va avoir le même problème que Toulouse et Milan la saison passée. Non, il n'y a pas vraiment cet aspect-là. Puis si on regarde tout simplement en fait, au niveau des transferts, le plus gros achat de l'histoire de Girona, c'est Artem Dovbyk qui a marqué hier, donc attaquant ukrainien qui est arrivé pour 7,5 millions d'euros.
Oui, on n'est pas exactement dans les
mêmes sphères. On n'est pas sur des grosses dépenses. Cet été, le Girona a dépensé pour 22 millions, mais a pu dépenser autant parce que le Romeo a fait le chemin inverse, qu'un autre défenseur central lui est parti au Wolfies et qu'ils ont payé 13 millions d'euros, il me semble, pour qu'il aille en Angleterre. Donc c'est un club qui a encore un petit budget.
Ouais.
Qui va peut-être avoir un plus gros budget à la fin de la saison, soit s'ils sont champions, soit même s'ils finissent dans les places européennes et qu'en plus, dans tous les cas, il y a des joueurs comme Savio qui vont être vendus à prix d'or, si on parle même de Tsigankov. Donc, pour l'instant, c'est un petit club qui réussit un exploit grâce à son bon travail, grâce à ses bons repères aussi en Liga, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe qui sont... des joueurs rejetés des centres de formation.
Ouais.
Miguel Gutiérrez, par exemple, qui marque hier, c'est un joueur qui n'a jamais eu sa place au Real Madrid. Arnaud Martinez, qui joue très souvent, pareil, c'est la même chose. Il était du côté du Barça et il a eu sa chance, lui, à Girona. Aleix Garcia, c'était une pépite. Et il a fait un peu le tour d'Europe avant de enfin trouver sa place, son niveau à Girona. Donc, c'est aussi beaucoup de très bonnes recrues de la part de la direction de Girona qui regarde au niveau local et qui va chercher de temps en temps des joueurs comme Dovbyk, Tsigankov, etc.
Peut-être un petit mot plus personnel. J'imagine que toi, c'est une des équipes qui te plaît le plus cette saison en Liga. Est-ce que tu les vois vraiment aller au bout ou il y a un moment où ils vont être rattrapés par ce plafond de verre que tu viens de nous décrire là?
C'est difficile de jouer les pronostics, surtout que là, il y a cette petite musique qui revient de dire est-ce que ce ne serait pas le Leicester espagnol ?
Ouais, bien sûr.
Et si on prend au niveau des effectifs, oui, Girona est une très grosse surprise, mais Girona a aussi de très bons joueurs, comme a pu l'avoir à son époque Leicester.
Ouais.
Donc, ils ont des cadres, ils ont des Aleix Garcia, Yann Herrera, etc., qui, eux, ont un niveau pour jouer ces places européennes en Liga. Donc, d'un côté, c'est une bonne surprise, mais de l'autre, si on regarde foncièrement sur les qualités des joueurs, et là on parle pas du tout des prix des transferts, mais on parle de qualité technique, etc. Il y a beaucoup de très très bons joueurs dans cette équipe. Le problème, c'est vraiment de tenir la cadence, parce que le Real Madrid va récupérer par exemple beaucoup d'absents, parce que là ils sont amputés, etc., ce qui font qu'ils font match nul contre le Betis, mais ils vont récupérer du monde. L'Atleti hier fait un match assez, on va dire, pas très bon contre Almeria. Pourtant, ils gagnent quand même.
Ouais.
Donc, ils vont avoir cette pression constante. Mais y a des cadres aussi dans l'effectif de Girona. Il y a Stuani, par exemple, qui est le capitaine, qui est là depuis 2017, qui est quasiment catalan maintenant, parce qu'il est uruguayen de base. Donc, je pense que même s'il y a des jeunes qui peuvent peut-être...
Se faire monter la tête, etc. Voilà,
parce que si on voit Savio hier, par exemple, il est pisté par le Barça et hier il a un match un peu compliqué parce que on joue à Barcelone, c'est tout l'enjeu, etc. Il y a des cadres, il y a ces joueurs qui ont, comme Daley Blint derrière. Daley Blint, il y a Eric Garcia malgré tout qui vient du Barça. Donc je pense que ça va aider aussi l'effectif à garder les pieds sur terre. Après, ce qui est sûr, c'est que vraisemblablement, Girona sera dans le top 4 à la fin de la saison.
Il y a une bonne chance.
Et du coup, il risque de jouer la Ligue des Champions, ce qui serait déjà gigantesque quand on sait que l'équipe est remontée en Liga la saison passée.
Et ben voilà pour ce gros point Girona. Là encore, on suivra les performances de ces épatants catalans dans les semaines qui viennent. Et nous, on va quitter l'Espagne pour retrouver la grisaille de Manchester United. Et allez, on termine ce Tour d'Europe par notre détour habituel dans le Royaume. On retrouve Philippe Auclair, notre correspondant en Angleterre. Comment ça va, Philippe ?
Bien sûr. Ça va toujours mieux avec une tasse de thé. Voilà, surtout toujours. Que là, la voix est un petit peu, tu l'entends, il y a un petit quelque chose là.
C'est parce que tu as encore beaucoup crié en voyant ce week-end de Première Ligue inattendu et encore très surprenant.
Oui, certes. Et avec des décisions arbitrales, encore une fois, qui font beaucoup, beaucoup jaser. Non, c'est vrai que ça a été un week-end, encore une fois, il s'est passé beaucoup de choses. J'allais dire à commencer ou à terminer par ce qui s'est passé à Tottenham hier, où on a retrouvé nos Spurs, ceux qu'on apprécie tellement depuis le début de la saison. Et on a vu un petit peu au niveau du jeu, par moments, c'est tellement séduisant. Ouais. Et par contre, Newcastle nous fait un petit peu peur avant le rendez-vous en Europe cette semaine. Ça, c'est une autre histoire.
Oui, et on vous conseille, Philippe, nous prépare une chronique sur les déboires des clubs anglais en Europe. Est-ce que finalement, la Première Ligue ne nuit pas aux performances européennes des clubs anglais ? Ce sera retrouvé sur eurosport.fr dans les jours à venir. Une autre équipe qui se réveille un petit peu, c'est Everton, mon cher Philippe.
Oui, et c'est un petit peu une surprise, je dirais même c'est vraiment une surprise, parce que l'équipe a été relégable pour commencer, ensuite elle s'est petit à petit sortie de la zone rouge pour se prendre une déduction de 10 points pour infraction au fair play financier. Ouais. Bon, il y a un appel qui a été fait, mais tel que les choses sont parties en ce moment pour l'équipe de Sean Dyche, à la limite, il n'y a pas besoin que cet appel soit refusé, dans la mesure où c'est 3 victoires consécutives, des victoires impressionnantes dans la manière de la part d'Everton. Quand je dis dans la manière, c'est pas au niveau de la beauté du jeu, parce que très honnêtement, c'est une équipe de Sean Dyche, donc vous imaginez bien en effet qu'il ne s'agit pas. Ouais, c'est pas du football champagne comme ce qu'on peut voir justement Tottenham ou Brighton produire. C'est un football extrêmement âpre, extrêmement disputé, mais c'est 3 victoires de suite et pas face à des adversaires nécessairement très faciles. À chaque fois, Everton se retrouve un petit peu dans la même situation, à savoir que pour ce qui est de la possession du ballon, ils sont souvent derrière. Ils concèdent quelques occasions de but, mais la défense avec un super James Tarkowski tient très bien. Et puis devant, on commence à retrouver un petit peu la forme. Alors, le fait que Calvert-Lewin soit de nouveau disponible, ça change beaucoup pour cette équipe. Et puis, il y a surtout un joueur, et moi, je suis absolument ravi, car c'est un joueur que j'adore, parce que j'aime aussi beaucoup l'homme, je dois te l'avouer, c'est Abdoulaye Doucouré, qui avait été complètement ostracisé par Frank Lampard, ce grand entraîneur, comme tout le monde le sait, lorsqu'il était à Everton. Et tout d'un coup, Sean Dyche lui a vraiment donné les clés de la maison. Et on retrouve le super Abdoulaye Doucouré qu'on connaissait notamment à Watford et ailleurs. Et c'est un vrai plaisir. C'est le moteur, c'est le driver de cette équipe d'Everton qui est à son image extrêmement pugnace, pas dénué de talent au passage. Il y a quand même, même si l'effectif est des plus minces, parce qu'ils ont dû vendre tous leurs meilleurs joueurs comme Gordon par exemple, qui est maintenant parti à Newcastle, ils n'ont pas vraiment été remplacés et ça va rester comme ça pendant un bon bout de temps. Mais Sean Dyche a été amené pour faire un boulot qui est celui de maintenir Everton en Première Ligue. On sait également qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour du futur du club, de l'avenir du club pour ce qui est de ses propriétaires, puisque l'offre de 777 Partners est toujours, on va dire, elle fait toujours aussi controversée. Le club financièrement est dans une situation absolument épouvantable, mais sur le terrain au moins, excusez-moi, je perds mes oreilles. Sur le terrain, au moins, les choses vont mieux. Et là, on retrouve l'Everton qu'on connaît, qui a les vertus traditionnelles d'Everton et qui est soutenu par un Goodison Park qui, en ce moment, est en feu. Donc, ils sont sortis de la zone de relégation. Ils sont à 4 points du premier relégable maintenant, après avoir pris une déduction de 10 points. C'est quand même pas rien. Donc, chapeau Everton pour ce qu'ils sont en train de faire depuis quelques semaines.
Et on va jeter des fleurs, mais il faut le faire parfois parce que personne ne le fait à notre place. On vous avait parlé d'Aston Villa la semaine passée. La semaine d'Aston Villa a été incroyable. Victoire face à Manchester City, victoire face à Arsenal. Cette équipe d'Unai Emery continue de nous fasciner, tout simplement.
Oui, et deux victoires très, très différentes. La première contre Manchester City, ils ont dominé dans la possession, la création, la créativité, l'imagination, devant le but, en défense. Ils ont été dominateurs dans tous les secteurs de jeu. Pep Guardiola l'a d'ailleurs reconnu, tout simplement. Ils avaient été battus, City avait été battu ce jour-là par plus fort qu'eux. C'est quand même quelque chose, hein, d'être battu, que City soit battu par plus fort que lui, ça n'arrive pas souvent. Contre Arsenal, ça a été différent. Ils ont bien entamé la rencontre, comme on a pris l'habitude. Ils sont à Villa Park, où ils ont maintenant 15 victoires de rang en Première Ligue, record absolu de l'histoire du club. Et rappelons que ce club est quand même l'un des fondateurs de la Ligue, je parle pas de la Première Ligue, je parle de la Ligue du 19e siècle, hein. Avec un but absolument magnifique de mon chouchou John McGinn, pour changer, avec Leon Bailey également à la création. Donc c'est des joueurs dont on sait qu'ils ont profité énormément de l'impact et de l'impulsion qu'a donné Unai Emery. Et après ça, belle réaction d'Arsenal, parce que Arsenal n'a pas fait un mauvais match, très honnêtement, mis à part peut-être dernière 20-25 minutes un petit peu timide, un peu tiède. Mais ils sont tombés sur une équipe de Villa qui défensivement est hyper solide. Il y avait toujours quelqu'un pour bloquer les tirs. Arsenal s'est un petit peu loupé face au but. On pense à l'occasion d'Odegaard. Il y a eu une ou deux décisions arbitrales, particulièrement le refus de Kai Havertz, qui font un petit peu jaser. Mais malgré tout, sur l'ensemble du match, il n'y a pas à crier au scandale. Et quelle semaine pour Villa, dont on disait ils sont super forts chez eux, mais à l'extérieur, c'est pas ça. Ils sont les gagnants à Manchester City. Et ils sont pas très, très forts. Ils sont très, très, très bons contre les équipes du haut du panier. Et ils ont battu Arsenal, qui était alors leader du championnat. Donc, tout continue. Et donc, à Villa pour le top 4, absolument. Villa pour le titre. Et pourquoi pas si ça continue comme ça?
Bon, on regardera de toute façon, évidemment. On suivra avec attention l'évolution de la troupe d'Unai Emery. Tu parlais d'une semaine de rêve pour Aston Villa. C'est une semaine de doute qui s'ouvre encore et toujours à Manchester United, Philippe, puisque il y a deux matchs ultra importants pour la saison des Red Devils. Mardi, face au Bayern Munich et cette potentielle élimination de la Ligue des Champions. Et puis, en petite cerise sur le gâteau, il y aura le déplacement à Anfield dimanche face à Liverpool. On a vu encore des Red Devils complètement dépassés et irréguliers cette semaine. Ils ont été battus face à Old Trafford, face à Bournemouth 3-0, une équipe sans vie, sans âme, alors que mercredi, face à Chelsea, il y avait eu un début de regain un petit peu. Comment on explique ce grand écart? Pourquoi cette équipe de Manchester United n'a pas de ligne directrice?
Eh bien, justement, c'est la question que tout le monde se pose et à laquelle personne n'apporte de réponse, parce que c'est exactement ce que disait Bruno Fernandes après la rencontre. Il a dit, on ne sait pas vraiment pourquoi. Erik ten Hag a dit également la même chose, nous avons complètement loupé notre entame de match. Et tu te dis, mais attends, vous sortez d'un match réussi pour une fois contre Chelsea. Donc on se dit, bon, ben, c'est l'occasion face à Bournemouth, qui certes joue bien, produit du beau football, n'a absolument aucun complexe et avait très bien identifié les zones sur lesquelles il fallait embêter Manchester United, c'est-à-dire presser très très haut, ce qu'ils ont fait avec beaucoup de talent. Mais quand on voit par exemple la différence entre la performance de Scott McTominay, auteur d'un doublé contre Chelsea, est absolument mais épouvantable. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas sorti à mais j'allais dire avant la pause. Tellement c'était mauvais. Il perdait tous les ballons qu'il pouvait. Le poids des passes n'était pas assuré. Il n'était pas là. Il n'était même pas agressif comme il l'est d'habitude. Et puis, c'est pas, on peut dire ça un petit peu d'Anthony Martial. Anthony Martial fait plutôt un bon match contre Chelsea. Là, il est tellement transparent et inefficace contre Bournemouth à Old Trafford que lorsqu'il a été remplacé à la 55e, il y a eu une ovation. Mais alors, l'ovation, ce n'était pas pour lui. C'était pour le fait qu'il sorte. Ce qui est quand même assez cruel, hein. Et de match en match, on voit exactement la même chose. Ils ont, je crois qu'ils ont aligné 3 victoires de rang une seule fois cette saison, ce qui est quand même pas beaucoup pour un club de la dimension de Manchester United, qui quand même, rappelons-le, s'était qualifié pour la Ligue des Champions. Là, ils ont un emploi du temps plutôt chargé avec ce match au coup près contre le Bayern. S'ils le perdent, non seulement ils ne participeront pas à 8e de finale, mais ils termineront dernier de leur groupe. Même pas de reversement en Europa League.
Dans
Donc
un
ça a
groupe
des
avec le
conséquences
FC
financières.
Copenhague et Galatasaray aussi, c'était pas
Et
non plus.
Galatasaray.
Oui.
Absolument. Enfin bon, il faut se souvenir qu'ils ont quand même perdu. Ils ont perdu contre Copenhague, ce fameux 4-3. Et puis ce match complètement fou contre Galatasaray également, ce match nul où ils avaient été plutôt meilleurs, mais ça n'avait pas suffi. Enfin, c'est une équipe. On a l'impression. Je veux dire, si on prend l'exemple de ce match contre Bournemouth, tu vois. Tu voyais exactement ce que Bournemouth voulait faire au niveau du plan de jeu, au niveau de la façon dont le football de cette équipe était mis en place. C'était d'une clarté absolue. Tu regardais Manchester United, tu te demandais, on ne sait pas très bien où ça va. Alors, bien sûr, il y a des absences. Casemiro, ça fait mal, hein, on sait qu'il s'est
Bien
blessé
sûr.
pendant la trêve
Ouais.
internationale. Et il ne reviendra pas, il a repris l'entraînement, mais il ne reviendra pas avant Noël, hein, au passage. Marcus Rashford n'était pas là parce qu'il est grippé. Et apparemment, il n'est pas trop content de ce qui se passe au club non plus. Jadon Sancho, on n'en parle même plus parce qu'il
Ouais,
va
bien
partir au
sûr.
mois de janvier.
Ouais.
On a parlé du cas Anthony Martial. Christian Eriksen, tu m'excuseras, ce n'est pas le joueur qu'on connaissait à Tottenham ou avec l'équipe du Danemark. En défense centrale, il a fallu faire jouer Harry Maguire et Luke Shaw. Pas certain que ce soit la combinaison la plus
Adéquate.
rassurante, on va
Ouais.
dire. Ouais, alors, problème, Lisandro est blessé. Et Raphaël Varane est toujours, bon, il est un petit peu, j'ai l'impression, fin de route, là, en l'occurrence, ce qui est dommage, hein, de vous retenir une telle classe. Et du coup, toute l'équipe est complètement déséquilibrée. On n'a pas le sentiment qu'il y a un véritable plan de jeu. Il doit y en avoir un. Je veux dire, on peut faire confiance à Eric Ten Hag. Eric Ten Hag n'est pas devenu un incapable, un incompétent du jour au lendemain. C'est le même entraîneur qui a fait revenir Manchester United, les a fait
Ouais.
redevenir compétitifs l'année dernière. C'est le même entraîneur qui était à l'Ajax Amsterdam, dont tout le monde chantait les louanges. La différence, c'est que l'indécision continue au top. Tu te souviens, Cyril, le nombre de fois qu'on a parlé de la reprise du
Bien
club, on
sûr,
s'est dit,
bien
ça y est,
sûr.
c'est
Et
fait.
c'est.
Radcliffe va prendre
Ouais.
25%. C'est toujours pas conclu.
Ouais.
On attend toujours que ça soit fait. On ne sait pas, au niveau du recrutement pour le mois de janvier, on ne sait pas qui va être en charge du recrutement. On n'a aucune idée. Certaines des recrues qui ont été amenées, bon, moi j'aime beaucoup Kasper Højlund, mais il n'est peut-être pas nécessairement fait pour jouer dans ce rôle-là, dans cette équipe-là. Tu regardes les buteurs, je regardais les buteurs avant de te parler de Manchester United. Premier meilleur buteur de la saison, Scott McTominay. 5 buts en
Ouais,
première
bah ça
ligue.
c'est.
Deuxième buteur en première ligue, Bruno Fernandes. 3 buts. 3 malheureux buts. Kasper Højlund, 5 buts, donc deuxième dans les toutes compétitions confondues. 5 buts en Ligue des Champions, 0 en championnat d'Angleterre. L'attaque de Manchester United cette année, c'est 18 buts en 16 matchs. C'est plus mauvais. Je pense que ça doit être la 14e ou 15e meilleure ou pire attaque de la première ligue, malgré tout, parce que la défense tient à peu près, parce qu'il y a eu ces victoires ric-rac 2 buts
Ouais.
1, tu te souviens, comme les Wolves par exemple, c'est pour commencer la série. Ils arrivent à s'accrocher. Mais encore une fois, il n'y a rien sur quoi bâtir. On s'attendait à ce que la saison précédente soit un tremplin. Le recrutement a été manqué, très honnêtement.
Ouais.
Le pauvre Mason Mount, dans quel pétrin il est allé
Ouais,
se
c'est
fourrer, on se
sûr.
demande. Et à la tête du club, on se pose toujours des questions sur la direction qu'il va prendre, qui va véritablement être le patron. Les Glazers sont toujours en place. Eric Ten Hag est très critiqué, à mon avis, un petit peu injustement par moment, mais c'est pas un communicateur comme Ange Postecoglou ou Mauricio Pochettino, hein, c'est moins qu'on puisse dire.
On l'a vu la semaine passée, notamment avec cette mini crise face à la presse qui
Oui.
couvre Manchester United. Quatre journalistes de médias qui avaient expliqué que le vestiaire était en train de se retourner contre Ten Hag, qui ont été interdits de conférences de presse avant le match face à Chelsea.
Incroyable.
J'aimerais bien qu'on continue sur le cas Ten Hag parce que finalement il est symbolique. On a l'impression d'un œil extérieur hein, que il n'y a que lui qui incarne aujourd'hui Manchester United, en tout cas dans sa direction, et qu'il est aussi un petit peu un défaut ou un symbole de ce manque d'identité dont tu parles, Philippe. On a du mal à savoir si remplacer Eric Ten Hag serait une solution viable ou pas, ou si ça ferait qu'aggraver
Par
les choses,
qui?
en fait. Voilà, c'est ça.
Et par qui? Et pourquoi? Et par quoi? Parce que c'est vrai que autant on avait une idée précise de ce qu'était le football de Ten Hag quand il était à l'Ajax,
Ouais.
c'était très clair. C'était un football qui était franchement étourdissant par moments. Et encore une fois, on se répète parce que c'est un petit peu la mantra du football moderne, mais un pressing très très haut,
Ouais.
des joueurs très techniques, capables de jouer dans les petits espaces, de prendre à la gorge leurs adversaires, mais aussi de combiner en triangle. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de talent aussi. Hein. C'était une équipe qui était pétrie de talent. Là, par contre, d'un match à l'autre, on ne sait pas trop. Et pour moi, l'un des symboles, ça va rester cette défaite contre Arsenal. 3-1. Qui est au passage le dernier but dans le jeu qui est marqué Marcus Rashford pour Manchester United. Ça date. Hein.
Ouais.
Et au départ, j'étais dans les tribunes et je me dis, mais c'est incroyable, j'ai l'impression de voir le Manchester United de José Mourinho. À savoir que dès la première minute de jeu, quasiment, c'était les ballons en retrait au gardien, à Onana. On prenait absolument aucun risque, on se repliait, dès qu'Arsenal avait le ballon, c'était 10 derrière, et puis on procédait par contre. Oui, pourquoi pas, ça peut marcher.
Ouais.
C'est comme ça que José Mourinho a remporté une Ligue Europa avec
Europa.
Manchester United. Mais c'est pas le style de Ten Hag, pas du tout. Et de match en match, on se pose des questions, on les voit jouer contre Chelsea, on se dit, ah, il y a tout compte fait, il y a peut-être un truc qui est en train de se mettre en place. Puis là, quelques jours plus tard, contre Bournemouth, on ne va pas dire que c'est la fatigue, Bournemouth aussi avait joué en milieu de semaine. Hein. Et tout d'un coup, eh ben, ils perdent leur football, ils sont face à une équipe plus agressive qu'eux. Et dès qu'il y a ce problème de déséquilibre dans l'engagement, Manchester United, on a l'impression que les joueurs se regardent en se disant « Mais qui va prendre charge de cette rencontre ?» Et là, il y a un problème au niveau du personnel de Manchester United. Il n'y a aucun joueur qui a véritablement cette dimension-là. Dans quelques lignes que ce soit. Il n'y a pas, à la limite, un Van der Sar pouvait le faire dans le but. Onana, non, il ne peut pas le faire. Harry Maguire, ça devrait être son rôle. Mais non, ce n'est pas lui. En milieu de terrain, Casemiro, ça salue, mais il est absent. Et devant, peut-être Marcus Rashford, mais il était grippé. Donc, formidable. Et en effet, cette inconstance, cette irrégularité et l'expression de l'indécision de Manchester United comme équipe au niveau du jeu à adopter de match en match. Il n'y a pas de ligne directrice. Et ce qui est quand même extraordinaire, parce que tu pourrais comprendre, par exemple, Tottenham a une ligne directrice. Alors, ils ont perdu trois matchs de suite. OK, c'est pas grave. La ligne directrice est restée en place. Ils se sont rétablis face à Manchester City. Ils ont ensuite perdu. Et puis là, ils viennent de faire ce match absolument éblouissant contre Newcastle. Et tout d'un coup, tu te dis, ah bah oui, mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont jamais dévié d'une ligne. Postecoglou, il sait où il va, il sait comment il veut jouer. Ses joueurs le savent, ses joueurs l'apprécient, le public adore ça. Alors que Old Trafford, c'est la soupe à la grimace. De match en match, c'est la soupe à la grimace. Quand on marque à Old Trafford, quand on marque pour Manchester United, c'est pas de la joie qu'on ressent, c'est du soulagement. Et c'est pas comme ça qu'on va gagner des matchs, c'est pas comme ça qu'on va regagner des titres, c'est pas comme ça qu'on va revenir au premier plan. Alors ils vont peut-être nous faire mentir, ils sont tout à fait capables demain soir de battre un Bayern qui s'est quand même fait taper par l'Eintracht Francfort, si j'ai bien écouté David.
Tout à fait.
5 buts à 1. Donc il est tout à fait possible que Ten Hag fasse des misères à Thomas Tuchel. Il est aussi possible que pendant ce temps-là, Galatasaray et le FC Copenhague fassent un joli match nul ou que les choses se passent moins bien. Ou Galatasaray, par exemple, si Galatasaray venait à remporter la rencontre, de toute façon, c'est terminé. Hein. Ouais. C'est au mieux Ligue Europa et encore. Et donc, ils sont en situation extraordinairement compliquée, extraordinairement difficile. Et le problème, comme tu disais, c'est que par qui les remplacer? Et on a entendu, alors évidemment, le gros serpent de mer. Alors, c'est un serpent de mer qu'on voit, depuis je ne sais pas combien de mois, voire d'années, c'est Zinedine Zidane.
Ouais, celui-ci, il revient souvent.
Mais à chaque fois, on entend ça, puis on essaie de faire comprendre aux gens. Vous savez, comparer le Real Madrid dont a hérité Zinedine Zidane avec le Manchester United dont il hériterait maintenant, je ne suis pas certain que ce soit nécessairement le meilleur choix.
Ouais.
Mais enfin, le problème est qu'en effet, on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait être aujourd'hui une nomination qui changerait tout, un entraîneur. Qui changerait tout, parce qu'encore une fois, faire confiance sur la durée, tout le monde dit que c'est le problème. Et qu'est-ce qu'on ferait? On se débarrasserait d'un entraîneur qui vous a fait revenir en Ligue des Champions après quoi? Un an et demi, chose comme ça? C'est ridicule. Donc, c'est pas réjouissant tout ça. Et je compatis avec nos amis supporters des Red Devils. C'est une période un petit peu délicate qu'ils vivent en ce moment.
Eh ben merci pour ce point. On va suivre la semaine qui s'ouvre donc pour Manchester United de manière encore plus attentive. Merci beaucoup, Philippe. On te retrouve évidemment dans les semaines qui viennent dans Tour d'Europe pour nous parler de la Première Ligue. Nous, on arrive à la fin de ce numéro de Tour d'Europe. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure, même plateforme. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.